Je vais inviter Michaël Derbez, donc spécialiste du CSTB, à venir me rejoindre. Michaël, vous êtes vous travaillez à la direction santé-confort du CSTB dans la division donc Expologie, Observatoire de la qualité de l'air, et vous êtes chef de projet. Je vais vous laisser la parole pour venir présenter. Je voudrais juste avant que vous nous expliquiez ce qu'est l'expologie en deux mots, le terme un petit peu compliqué.
Bonjour à tous. Merci de m'avoir donné la parole et merci. Ah oui, pardon, excusez-moi. Merci également à l'Adréal de m'avoir permis donc de commencer cette présentation, de commencer cette journée, pardon, par ma présentation. Donc oui, l'expologie, c'est la science de mesure de l'exposition. Donc c'est l'exposition de la population à des agents que l'on trouve dans l'environnement intérieur. Donc surtout liés à la qualité de l'air intérieur. Mais aussi à des paramètres de confort d'ambiance, confort thermique, acoustique, visuel, olfactif. Voilà. Donc, je vais vous présenter les résultats d'une étude que j'ai pilotée depuis 2012 sur les bâtiments performants en énergie. Cette étude fait partie des programmes d'action de l'Observatoire de qualité d'air intérieur, qui est financé exclusivement par les pouvoirs publics. Je vais vous présenter les résultats. Pardon. Je peux les passer si vous voulez. Ouais. Ça marche. Donc je vais vous présenter les résultats de cette étude. Mais avant, je vais faire un petit rappel sur la qualité de l'air intérieur et également sur le contexte de cette étude. Pourquoi on s'intéresse à la qualité de l'air intérieur ? Tout simplement parce qu'on passe 80% de notre temps dans les environnements clos, dont 65% à l'intérieur de nos logements. Et il faut savoir qu'à l'intérieur des logements, c'est dans la chambre que l'on va passer le plus de temps par rapport à toutes les autres pièces. Il faut savoir aussi qu'il y a un quart de la population qui passe plus de 20 heures par jour, 83% du temps. Et dans cette population, il y a une majorité de personnes les plus fragiles. J'ai repris un schéma qui indique les sources principales de pollution de l'air. La première source, c'est l'air extérieur. Toutes les pollutions qui sont générées à l'extérieur vont pouvoir pénétrer à l'intérieur des bâtiments, soit par les systèmes de ventilation, soit lorsqu'on va aérer par ouverture des fenêtres, et puis également par nous, les occupants. On va aussi transporter sur nous des pathogènes, des virus, etc. La deuxième source, c'est le sol. Ça, c'est la problématique du radon, mais aussi des sols pollués, on va dire. L'autre source, c'est tout ce qui est équipement, l'utilisation d'équipements pour la cuisson, le fonctionnement des systèmes de ventilation, systèmes de chauffage. Ensuite, on a également tout ce qui est matériaux de construction, matériaux de décoration. On a les matériaux également, le mobilier, et puis tout ce qui est activité humaine, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on construit ces bâtiments pour abriter les hommes, et donc ils ont des activités, et parmi leurs activités, certaines vont générer des polluants. Il ne faut pas oublier non plus que tous ces polluants qui vont se retrouver dans ces environnements clos vont interagir les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle finalement des polluants secondaires. C'était des polluants qui n'étaient pas présents à l'état initial, mais par réaction chimique, ils vont se former. Au niveau de la multiplicité de ces polluants, donc il y en a beaucoup. On entend parler des composés organiques volatiles, des polluants chimiques. Dans les pollutions chimiques, on a le dioxyde de carbone qui est issu des processus de combustion et des combustions qui sont incomplètes. Le dioxyde d'azote qui est issu de combustions diverses, mais ça peut être dans les sources intérieures le fonctionnement de la gazinière, et puis ça peut être aussi le trafic routier. Les composés organiques volatiles, donc c'est tout ce qui est émis par les matériaux de construction, les matériaux d'ameublement, de décoration, les produits d'entretien, effectivement là, aussi la fumée de tabac, qui, il faut savoir, le tabac c'est quand même la source principale de pollution de l'air intérieur. Parmi les COV, on parle du formaldéhyde. On a d'autres sources, donc les polluants biologiques, donc les agents tels que les bactéries, les allergènes, on a les particules, et puis aussi on a le radon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les environnements intérieurs, on a mesuré des concentrations intérieures qui étaient plus élevées pour certains polluants. Donc vous avez ici un graphique. Sur votre gauche, vous avez les concentrations mesurées à l'intérieur et sur la droite, les concentrations mesurées à l'extérieur. Et là, vous avez la liste des polluants. Et en fait, on voit que pour les polluants tels que formaldéhyde, hexaldéhyde, toluène, acétaldéhyde et puis d'autres COV, on a des concentrations qui sont plus élevées à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis cette pollution de l'air, elle a des impacts. On l'a dit en introduction, il y a des impacts sanitaires. Donc les premiers symptômes, c'est lié à l'inconfort. Des odeurs, on a une sensation d'air sec, d'air confiné. On peut avoir aussi des symptômes, donc des symptômes d'irritation, de maux de tête, de fatigue, baisse de performance, et puis ça peut aller jusqu'à aux maladies, donc tout ce qui est rhinite, asthme, infection respiratoire, et puis ça peut aller jusqu'au cancer du poumon, notamment pour le radon. En France, il faut savoir qu'on a 28 000 nouveaux cas de pathologies chaque année liés à la qualité de l'air intérieur. Et comme on l'a dit, on a estimé à 20 milliards d'euros par an les dépenses liées à l'impact sanitaire de la qualité de l'air intérieur. Ces coûts prennent à la fois en compte le coût externe, c'est-à-dire le coût de la mortalité, si on peut donner un coût à la mortalité, la qualité de vie, la baisse de productivité. Et puis l'impact sur les finances publiques, sur l'impact sur les soins, la recherche et puis les retraites non versées. Donc c'est dans ce contexte-là que l'Observatoire de qualité de l'air intérieur a été créé en 2001. Comme je vous l'ai dit, c'est un programme de recherche qui s'occupe de l'expologie, de l'exposition et la santé des bâtiments, qui est sous la tutelle donc de plusieurs ministères, donc en charge du logement, de la santé, de l'écologie. Et il y a également l'ADEME qui finance, il y a l'ANSES et également le CSTB. Et le CSTB est chargé de la mise en œuvre de cet observatoire. On est à peu près une quinzaine de personnes et on ne travaille pas tout seul puisqu'on travaille au sein d'un réseau de scientifiques et d'opérationnels qui sont coordonnés donc, par le CSTB. Ce que l'on fait, c'est des campagnes nationales de mesures dans les bâtiments en France. On a fait une campagne nationale logement donc entre 2003 et 2005 et on est allé dans 567 logements où on a fait des mesures. L'intérêt de nos campagnes nationales, c'est de faire des mesures sur des échantillons qui sont représentatifs du parc de bâtiments auquel on s'intéresse. C'est-à-dire qu'à partir des données qu'on a connectées sur cet échantillon, par des méthodes statistiques, on arrive à donner une image de la qualité de l'air intérieur dans le parc de bâtiments, puisqu'il est évidemment impossible de faire des mesures dans tous les logements. Donc, on a fait une campagne nationale donc logement 2003-2005, donc ça date un peu, et on a terminé récemment une campagne nationale dans les écoles. On a investigué 600 salles de classe dans 300 écoles et une campagne nationale dans les bureaux, où là, on a enquêté 130 immeubles de bureaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en train de mener une campagne nationale dans les établissements sociaux et médico-sociaux. 100 bâtiments vont être enquêtés entre 2019 et 2020. Et puis, on commence une étude pilote pour la campagne nationale Logement 2, qui est prévue entre 2020 et 2022. L'idée, c'est de pouvoir comparer la situation entre aujourd'hui et puis la situation il y a 15 à 20 ans. Je vais maintenant me focaliser sur les bâtiments performants en énergie, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur donc le programme qu'a animé l'Observatoire pendant 6 ans. Donc c'est dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la précarité énergétique que l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments est une nécessité. Donc ça passe par le renforcement de l'isolation, la réduction de la perméabilité à l'air des façades notamment. Et là, la question qu'on s'est posée lorsqu'on a démarré ce programme, c'est qu'en était-il de la qualité sanitaire et du bien-être des occupants ? Alors, et l'autre question qu'on s'est posée, c'est existe-t-il des contre-performances ? Est-ce que en réduisant la consommation d'énergie, on n'a pas détérioré à la fois la qualité sanitaire et à la fois le bien-être des occupants ? Et puis, il y a des contre-performances qu'on pouvait aussi imaginer. Par exemple, on a dit qu'on allait réduire la perméabilité à l'air de l'enveloppe. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on risque pas de réduire le taux de renouvellement de l'air et donc d'induire des pathologies du bâtiment, humidité, ou même des concentrations de polluants plus importantes et avoir des impacts sur la santé ? Puisque dans un bâtiment, on va dire, standard, le taux de renouvellement d'air, il est issu du système de ventilation, de l'aération par ouverture de fenêtre et par les fuites parasites. À partir du moment où on réduit les fuites parasites, si on n'a rien fait sur le système de ventilation et si on ne change pas notre comportement par rapport à l'ouverture de fenêtre, on risque d'avoir des réductions de taux de renouvellement d'air. Il y a d'autres points qu'on a souhaité investiguer, c'est les risques de condensation et les risques de développement fongique. Dans un bâtiment qui n'est pas isolé, qui est équipé de simples vitrages, on aura des condensations qui vont se faire sur les vitres. Et pas sur les parois. À partir du moment où on va remplacer ce simple vitrage par du double, les condensations vont se faire sur les parois. Et si les parois ne sont pas isolées, eh ben on aura effectivement des parois froides et des ponts thermiques. Et puis, on a aussi d'autres problématiques, comme les risques de surchauffe estivale, où là, on va essayer dans ces bâtiments d'optimiser les apports solaires, mais il va falloir s'en prémunir, certainement, forcément l'été, et donc du coup, on peut avoir des problèmes d'inconfort, mais aussi des problèmes d'inconfort en hiver. Donc le programme, il s'est basé sur des mesures expérimentales qui ont été faites sur 128 logements qui étaient occupés. Ces logements étaient répartis en bâtiments, donc en maisons individuelles, 28 maisons individuelles et 54 immeubles collectifs. Dans les immeubles collectifs, on était amené à investiguer 1 à 3 logements collectifs. Ces bâtiments neufs pouvaient être conformes à l'ART 2012 ou alors être conformes à l'ART 2005 avec des respects des exigences des labels énergétiques tels que BBC 2005. Et ces bâtiments pouvaient être aussi récemment rénovés. Dans ces cas-là, ils respectaient les critères du label Effinergie Rénovation, ou équivalent. Ces bâtiments ont été sélectionnés sur la base du volontariat. Donc, ce qui veut dire que les résultats que je vous présente ne peuvent pas être extrapolables aux bâtiments performants en énergie qu'il y a en France. Quoi qu'il en soit, on en tire des éléments intéressants. Ces logements ont fait l'objet de 2 enquêtes d'une semaine, en période de chauffe et puis en période de hors-chauffe. On a mesuré le dioxyde de carbone, la température, l'humidité, les particules, plein de paramètres polluants, les aldéhydes, les composés organiques volatiles, le NO2, le radon. On a fait des mesures ponctuelles au niveau des bouches de ventilation et puis on a fait une inspection visuelle des moisissures et on a calculé leur activité fongique. Tout ça, je vais le détailler tout à l'heure. Alors, en complément de toutes ces mesures et ces prélèvements, on renseigne des questionnaires. Ces questionnaires, ils ont une visée d'abord descriptive, parce qu'on veut connaître l'objet de notre étude, et à la fois, ils ont une visée explicative, parce que à partir du moment où on aura les niveaux de concentration, on veut arriver à comprendre à quoi c'est lié. Donc, les questionnaires permettent d'avoir des informations générales sur l'environnement extérieur, sur le bâtiment lui-même, sur le logement, sur les systèmes, et également sur les occupants et les activités qu'on a pendant la semaine de mesure. Alors, quel est-il des résultats ? Là, je vais vous présenter les résultats qui ont été comparés au parc de bâtiments français, donc aux résultats de la campagne nationale logement qui a été réalisée entre 2003 et 2005. Je vous présente les résultats sur le confinement de l'air. Donc, vous voyez que pour les concentrations en CO2, donc mesurées pendant les périodes d'occupation de ces logements, on voit qu'en période de chauffe, on a des concentrations mesurées dans les bâtiments performants en énergie inférieures à ceux de la campagne nationale logement. Et puis, en période de hors-chauffe, on a les mêmes concentrations. Donc, au final, si on compare la situation bâtiments performants en énergie et logements français, on voit qu'on a un niveau de confinement qui est égal, voire inférieur. Au niveau des systèmes de ventilation, comme je vous l'ai dit, on a décrit les systèmes et on a fait des mesures aux bouches, des mesures donc de débit d'air ou des mesures de différence de pression. Et on s'aperçoit qu'on observe les mêmes dysfonctionnements des systèmes qu'on avait observés pour la campagne nationale logement, et d'ailleurs que d'autres, comme les CRC, observent également. C'est-à-dire que dans les systèmes de ventilation mécanique hygroréglables, lorsqu'on mesure la différence de pression, on voit qu'il y a entre 40 et 70% des mesures qui sont dans la plage de fonctionnement préconisée par les fabricants. Ce qui veut dire que le reste de pourcentage, on est en dehors de cette plage-là. Pour les systèmes de ventilation mécanique autoréglables, où on mesure les débits d'air extraits et on compare avec les débits réglementaires, on voit qu'entre 20 et 50% des débits d'extraction mesurées sont conformes à la réglementation. Au niveau des aldéhydes, on a mesuré trois aldéhydes, le formaldéhyde, l'hexaldéhyde et l'acétaldéhyde. On voit que pour les deux premiers, acétaldéhyde et formaldéhyde, on a des concentrations soit inférieures, soit égales au logement français. Par contre, pour l'hexaldéhyde, on a des concentrations qui sont plus élevées. Au niveau des composés organivolatiles, on en a dosé 16. On voit qu'en général, les concentrations soient inférieures, soit égales à la campagne nationale logement, sauf pour deux composés, l'alphapinène et le limonène. Au niveau des autres polluants, on montre qu'on a des mesures de température, aussi bien en période de chauffe qu'en période de hors-chauffe, qui sont supérieures dans les bâtiments performants en énergie par rapport au logement français. Alors, pour les moisissures, comme je vous l'ai dit, on fait une inspection visuelle et à la fois, on calcule l'activité fongique. Là, vous avez un graphique qui montre donc sur votre gauche le pourcentage de logements qui présentent des moisissures visibles. Les histogrammes verts correspondent aux résultats de l'étude BPE et les histogrammes noirs aux résultats de la campagne nationale logement. Donc, on voit qu'on a moins de logements, donc bâtiments performants en énergie, qui présentent des moisissures visibles que ce qu'on avait dans les logements français. On a on a 1% de BPE qui présente des moisissures contre 15% dans les logements français, donc ça c'est plutôt positif. Et l'autre point, c'est l'activité fongique. On a développé une méthode au CSTB qui nous permet de savoir si une moisissure est en train de se développer. La moisissure, quand elle se développe, elle émet des composés organiques volatiles qui sont spécifiques à son métabolisme et qu'on est capable de capter sur nos prélèvements et qu'ensuite, cela nous permet de calculer un indice de contamination fongique, donc positif ou négatif. L'intérêt de notre outil, de notre indice, c'est de repérer une moisissure qui est en train de se développer, même si celle-ci n'est pas visible. Étant donné qu'on se base sur les composés organiques volatiles du métabolisme de la moisissure et que ce sont des gaz, ils peuvent passer au niveau des réseaux poreux des substrats. Et même si la moisissure elle est derrière un papier peint ou derrière une plaque de plâtre, on sera capable de capter ces COV lorsqu'on fait une mesure au niveau de la pièce. Et donc, ce que l'on observe, c'est que finalement, on a une proportion de logements plus importante dans les bâtiments performants en énergie qui présente une activité fongique. Voilà. Et ce qui est intéressant ici sur ce graphique-là, c'est que dans les bâtiments performants en énergie, on a très peu de moisissures visibles. Par contre, on a une proportion plus importante de logements qui ont une activité fongique. Donc, ce qui veut dire que la majorité des moisissures qui se développent dans les bâtiments performants en énergie sont cachées, mais qu'il y a une forte proportion. Alors, au final, dans cette étude, les messages qu'on veut faire passer, les résultats principaux, c'est que la qualité de l'environnement intérieur, elle est globalement similaire, voire meilleure pour certains indicateurs, mais on a des points de vigilance. Les points de vigilance, ce sont des valeurs de concentration donc plus élevées pour l'hexaldéhyde, l'alphapinène, des valeurs de température plus élevées, une concentration plus élevée en limonène en période de chauffe, et puis une proportion plus élevée de logements qui présentent une contamination fongique active. Alors, à l'issue de ces résultats, on a voulu savoir connaître les facteurs qui déterminaient cette spécificité. Donc, la recherche des facteurs a été faite pour expliquer les concentrations élevées de l'hexaldéhyde, l'alphapinène, le limonène et la contamination fongique. Pour ce qui est des températures plus élevées, en parallèle des mesures, on a distribué un questionnaire perceptif aux occupants sur leur confort thermique. Et on s'est aperçu que finalement, il y avait une proportion très faible d'occupants qui se plaignaient d'inconfort lié à la température. Donc, à cause de ça, c'est la raison pour laquelle on n'a pas recherché à expliquer les facteurs donc qui expliquaient les valeurs plus élevées de température, puisqu'au final, les gens ne s'en plaignent pas. Alors, pardon, pour rechercher les facteurs, on a utilisé des méthodes statistiques. Donc, bon, je vous fais grâce de toute la méthode. D'ailleurs, je ne suis pas compétent puisque j'ai travaillé avec des statisticiens pour travailler là-dessus. Mais en gros, les trois polluants, donc alpha-pinène, limonène, qui sont des terpènes, et puis l'hexaldéhyde, qui est un aldéhyde, ce sont des variables donc, quantitatives, c'est-à-dire c'est des concentrations qu'on essaye d'expliquer. Et pour ça, on utilise des régressions linéaires multiniveaux. Et puis le développement fongique, c'est une variable binaire, c'est-à-dire oui, il y a développement, non, il n'y a pas de développement. Et là, on utilise une autre méthode. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce qu'on fait pour rechercher les facteurs qui expliquent ces spécificités? En fait, on va chercher dans les questionnaires qu'on a renseignés. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les questionnaires, donc, ils sont très complets, ils permettent de décrire, mais aussi d'expliquer. Donc, on va chercher dans les questionnaires toutes les variables qui nous semblent pertinentes pour expliquer ces spécificités. Donc la première, cette présélection de variables se fait en trois étapes. Rapidement, la première étape, on supprime les variables qui n'ont aucun intérêt. La deuxième, on garde toutes les variables et on va les tester individuellement et on va les introduire dans le modèle. Et la troisième étape, c'est à partir de cette présélection de variables, on va éliminer toutes les variables qui sont corrélées entre elles. Parce que si on les garde, elles risquent de biaiser le modèle. Voici les résultats. Vous avez donc ici tous les facteurs associés à l'augmentation de concentration de l'alpha-pinène, de l'hexaldéhyde et du limonène. Pour l'alpha-pinène, c'est la première ligne, on voit qu'on observe une augmentation des concentrations de l'alpha-pinène lorsqu'on a une structure des parois qui est en ossature bois, ce qui n'est pas aberrant puisqu'on sait que naturellement le bois émet des terpènes, dont l'alpha-pinène. On s'aperçoit aussi que les concentrations en alpha-pinène augmentent lorsque la pièce de mesure se situe directement sous des combles et lorsque l'isolation des combles est faite avec un isolant végétal, donc boîte de cellulose, de fibres de bois. Et on s'aperçoit aussi que l'alpha-pinène augmente lorsque dans la pièce de mesure, on a du mobilier en bois. Pour ce qui est de l'hexaldéhyde, on a également la structure des parois, donc l'impact de l'ossature bois qui apparaît. Et puis on a aussi là des revêtements de sol à base de bois qui se trouvent dans le logement. Pour le limonène, on a un lien avec la surface habitable. Plus la surface habitable est importante et plus la concentration en limonène est importante. Et puis, on a un lien avec l'introduction de mobilier neuf, voilà, qui a été introduit pendant la première semaine de mesure. Pour ce qui est du développement fongique, il y a trois facteurs qui sont associés avec le développement fongique. Donc, il y a l'écart d'humidité absolue en période de chauffe entre l'intérieur et l'extérieur, le délai d'enquête et la filière humide. Je vais détailler, après l'écart d'humidité absolue, je vais d'abord détailler le délai d'enquête. On s'aperçoit que la proportion de bâtiments qui ont une contamination fongique active est plus importante lorsque la mesure qu'on fait a lieu moins de 1 an et demi après la fin des travaux de construction ou la fin des travaux de rénovation. Plus on attend pour faire cette mesure et moins on a de chances de détecter une activité fongique. Alors ça, comment est-ce qu'on l'explique? Là, on ne fait que des hypothèses. L'hypothèse, c'est qu'il y a une humidité résiduelle qui est due aux travaux et que cette humidité, elle a besoin de s'évacuer. En période de travaux, on sait très bien qu'il n'y a pas de système de gestion de ventilation ou de système de solution active qui permettent de réduire drastiquement ces niveaux d'humidité et que cette humidité, elle reste. Et que finalement, elle va s'évacuer au fur et à mesure qu'on va mettre en fonctionnement les systèmes de ventilation, au fur et à mesure que l'on va chauffer, au fur et à mesure qu'on va ventiler. Et à condition, évidemment, qu'on n'ait aucun dégât des eaux, aucun problème d'infiltration d'eau qui pourrait rajouter de l'humidité. Le troisième facteur, c'est l'utilisation de la filière humide. Donc là, on a ciblé, ce qu'on avait documenté, c'était béton-pierre par rapport à la filière sèche. C'est-à-dire que on a une proportion plus importante de logements qui présentent une activité fongique lorsqu'on a utilisé la filière humide que lorsqu'on a utilisé la filière sèche. Là encore, on fait des hypothèses. On sait que la filière humide nécessite beaucoup d'eau, évidemment, pour mettre en œuvre tous les éléments humides, les bétons, les chapes, et que cette humidité a probablement des difficultés à s'évacuer. Elle le fera au long du terme, mais pas spécialement en phase chantier. Et puis, on a aussi un risque de condensation au sein des parois, puisque dans une paroi ossature bois, on n'a pas un millefeuille de matériaux, chose qu'on a par contre au niveau des parois donc, de filières plus traditionnelles, ou avec des caractéristiques physiques différentes et avec des pénétrations de vapeur d'eau différentes. Maintenant, je vais faire un éclairage plus spécifique sur l'écart d'humidité. En fait, on montre qu'on a une augmentation du risque de condensation de la vapeur d'eau à l'intérieur des parois en période de chauffe. En fait, ça, donc je l'ai illustré par ce graphique-là. En période de chauffe, on a souvent un transfert de la vapeur d'eau qui s'effectue donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est dû à la différence de pression de vapeur. Et si à l'intérieur du mur la température arrive au point de rosée, cette vapeur d'eau elle va se transformer en humidité et on aura de l'eau liquide. Alors ça se fait si on n'a pas pris des préconisations, ça se fait si on a une absence de gradient de perméabilité ou si on a une absence de vapeur de pare-vapeur. Et dans ce cas, on s'aperçoit que pour une différence très faible d'humidité absolue entre l'extérieur et l'intérieur, on a ce phénomène qui apparaît. On a voulu rechercher les caractéristiques des logements dans notre échantillon qui avaient une contamination fongique et puis ceux qui n'en avaient pas. Et on s'aperçoit que ceux qui en ont, c'est ceux qui ont des concentrations de CO2 donc, qui sont plus élevées. Donc les logements sont un peu plus confinés. Et on observe aussi que ce sont les logements dans lesquels se trouve le système de chauffage. Donc la chaudière se trouve à l'intérieur du logement. L'autre point, c'est donc oui, on a ce qu'on a voulu aussi faire, c'est comparer l'écart d'humidité absolue de notre échantillon, donc BPE, par rapport à la campagne nationale de logement, pour voir quelle était la différence. Et on s'aperçoit que pour la campagne nationale de logement, on a une différence significative de la proportion de logements qui présentent une activité fongique à partir du moment où on a une différence d'humidité absolue entre l'intérieur et l'extérieur de environ 3 grammes. Et je vous rappelle que nous, dans les bâtiments performants en énergie, on a environ 1 gramme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça semble dire que le risque de condensation ou d'éloignement fongique, il semble être plus élevé dans les logements bâtiments performants en énergie que dans les logements existants. Et pour le même écart moyen d'humidité relative. Comment est-ce qu'on l'interprète? Alors ça, c'est encore que des hypothèses. L'idée, c'est qu'on se dit qu'il y a une réduction du pouvoir hygrique des matériaux à réguler l'humidité. On se demande si on n'a pas un problème de saturation en eau des matériaux en phase chantier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les observations que l'on a faites là, pour la campagne nationale, pour les bâtiments performants d'énergie, c'est des observations qui sont faites sur des logements qui sont occupés et on n'a aucune idée de savoir ce qui s'est passé, alors, soit avant la rénovation, soit alors en phase chantier. Donc on se pose aussi des questions sur la phase chantier. Et c'est parce qu'on se pose beaucoup de questions sur la phase chantier qu'on mène des recherches actuelles sur le développement fongique, donc en phase chantier, sur le risque de réémergence d'une contamination fongique qu'on aurait en phase chantier qu'on retrouverait en phase d'exploitation, donc en occupation, et puis sur toutes les solutions de réduction d'excès d'humidité. Alors dans ce cadre-là, un consortium a été formé. Donc ce consortium, il est composé par Indigo, qui est le pilote du projet. Il y a l'association Qualité Construction, il y a le HESP et le CSTB. Le consortium a répondu à un appel à projet bâtiment responsable 2018 de l'ADEME et on a été lauréat. Et cette étude s'appelle l'étude donc Microbat. peut-être qu'on en parlera cet après-midi ou tout à l'heure. L'idée, c'est de réduire le risque d'apparition des moisissures sur les chantiers de construction neuve. Donc, cette étude elle va se baser sur des suivis expérimentaux de 3 bâtiments qui seront répartis dans les 3 zones climatiques. On va suivre les bâtiments à partir du moment où ils sont hors d'eau, hors d'air. Et on va faire des mesures très régulières de l'activité fongique, des prélèvements de la biomasse, des mesures de température, d'humidité. Et on va faire on va lier donc ces mesures avec les observations de terrain qu'on fait, avec toutes les phases de chantier. Et on va aussi en parallèle. Peut-être que j'ai.
Un tout petit peu.
Pardon. Mais... ben je vais voilà. On va aussi faire de la modélisation pour au niveau du bâtiment pour voir quelles sont les solutions qu'on pourrait mettre en œuvre pour réduire ces excès d'humidité. Et donc cette étude, elle est complétée par une autre étude dont on vient d'être juste lauréat cette année. C'est donc l'étude s'appelle Mycopact. C'est financé par l'ADEME appel à projet Cortea 2019. Et cette étude-là, elle va étudier spécifiquement tout ce qui se passe au niveau des parois et aussi on va pouvoir mettre en œuvre des solutions actives de remédiation d'humidité. Voilà, je voudrais remercier donc les financeurs du projet et les personnes qui ont participé.